Bonjour à tous. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont été interviewés à un moment ou un autre de leur vie. Pas tous. Et j'imagine que certains d'entre vous ont probablement été interviewés plusieurs fois au cours de leur carrière. Certains d'entre vous ont peut-être même interviewé des personnes plusieurs fois, voire plusieurs fois. Lorsque je regarde en arrière, je constate que j'ai réalisé de nombreuses interviews au cours de ma carrière. J'ai moi-même interviewé de nombreuses personnes. Et une question qui ne m'a jamais vraiment traversé l'esprit, en particulier en tant que personne interrogée, c'est-à-dire en tant qu'interviewée, était de savoir si j'étais l'employé qu'il recherchait. La question ne m'est jamais venue à l'esprit. Je m'intéressais davantage aux responsabilités du poste ou à la rémunération, au salaire. Je voulais aller droit au but. Que voulez-vous que je fasse et combien allez-vous me payer pour cela? Je n'ai même pas pensé à demander quel type d'employé il recherchait. Et peut-être n'ont-ils même pas réfléchi à cette question plus profonde. Il pensait peut-être aux responsabilités ou aux tâches à accomplir et se demandait si j'étais qualifié ou si j'avais l'expérience et les compétences nécessaires pour faire ce travail. Et dans ma confiance, j'ai supposé que j'étais exactement ce dont l'entreprise avait besoin, ce qu'elle pouvait utiliser ou ce qu'elle recherchait. À tort ou à raison, cette attitude était incorrecte. J'ai mentionné cet exemple. Et je commence mon message en disant ceci, en tant que chrétiens, nous avons le privilège d'être recherchés et appelés par Dieu. D'une certaine manière, Dieu nous a demandé de participer au plus grand stage auquel un être humain puisse participer. Si nous remplissons les conditions requises au cours de ce stage, nous pourrons être embauchés définitivement. Ou je pourrais dire que nous serions engagés pour l'éternité. Et chaque année de ce stage, si je peux utiliser ce terme, comme tout le monde le comprend, Dieu nous fait passer un examen de performance. Son intention n'est pas de laisser partir l'un d'entre nous, mais il veut que nous continuions à nous préparer pour une année encore meilleure et plus fructueuse. Et nous continuons à le faire année après année jusqu'au moment tant attendu où Dieu lance ou amène son royaume sur terre. Frères et sœurs, nous sommes au cœur de la période précédant la Pâque, et je dirais même que nous sommes au cœur de notre évaluation annuelle, le moment de l'examen de conscience. Nous étudions, nous prions, nous jeûnons probablement, nous examinons et nous nous préparons dans l'espoir d'être embauchés définitivement. Et dans le cadre de ces efforts, nous posons des questions, parfois difficiles. Tournons-nous vers le chapitre 7 de Matthieu. Le chapitre 7 de Matthieu, et regardons une instruction que Christ a donnée à ses disciples. Un texte que nous connaissons bien, mais que nous n'avons peut-être jamais envisagé ou utilisé de cette manière. Matthieu, chapitre 7 et verset 7, Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est l'homme d'entre vous qui, si son fils demande du pain, lui donnera une pierre? S'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si vous êtes méchant et que vous sachiez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Je trouve intéressant que Christ n'ait pas dit vous venez de votre Père, mais qu'il ait utilisé le mot eux. C'est comme s'il y avait un grand groupe de personnes qui peuvent prétendre que Dieu est leur Père, mais ce n'est qu'à eux que certaines choses arrivent. Frères et sœurs, si nous poursuivons une position permanente dans le royaume de Dieu, qu'y a-t-il de mieux que Dieu nous donne un retour sur nos progrès? Vous n'avez peut-être jamais pensé appliquer ce verset à notre progrès spirituel. Ce serait formidable si Dieu révélait ce qu'il cherche. Quelle plus grande connaissance pourrait avoir un être humain? Quelle plus grande connaissance pourrait-il avoir en sachant ce que Dieu recherche en chacun de nous ou attend de chacun de nous? Le fait que Dieu nous montre ce qu'il recherche, ce qu'il attend de nous en termes de développement ne serait-il pas une bonne chose? Bien sûr que oui. La clé, mes frères, c'est de chercher, de demander, de frapper. Vous savez, les stagiaires qui s'adressent volontairement à leur patron pour obtenir un retour d'information critique, je dois vous dire que c'est impressionnant. J'ai été superviseur ou patron, managé de nombreuses personnes dans ma vie, et je peux vous dire que je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où une personne est venue me voir volontairement pour me demander un retour d'information. J'ai procédé à des évaluations annuelles des performances. Encore une fois, j'ai participé à des entretiens annuels d'évaluation. Et très honnêtement, si je suis honnête avec vous, il m'est arrivé, dans mon travail, de ne pas demander volontairement, en dehors de cette période d'évaluation des performances, comment je m'en sortais, comment je pouvais m'améliorer. Si je pouvais revenir en arrière, je l'aurais fait beaucoup plus souvent. C'est impressionnant. Bien sûr, si vous regardez ce verset tel que nous l'appliquons souvent, Dieu veut que nous venions à lui pour les choses dont nous avons besoin, pour les choses que nous voulons. Il n'y a rien de mal à cela. Chercher, demander, frapper pour obtenir des bénédictions, physiques, financières, un emploi, des miracles, des guérisons. Nous pouvons demander et rechercher Dieu pour des choses qui se passent dans nos mariages, ou si nous voulons nous marier. Nous pouvons nous adresser à Dieu au sujet de nos enfants, en cherchant, en demandant, en frappant pour qu'il nous aide dans une situation donnée ou si nous voulons avoir des enfants. Ce sont toutes de bonnes choses à demander à Dieu. Il n'y a rien de mal à cela, mais allons-nous vers lui en cherchant, en demandant et en frappant avec la même intensité pour comprendre ce qu'il cherche? Parce qu'au cœur du christianisme, si vous allez vraiment à l'essentiel, il s'agit de donner à Dieu ce qu'il cherche. C'est cela, mes amis, qui incarne le mode de vie qui consiste à donner, et non l'inverse comme le monde le fait. Ils le font à l'envers, comme nous le faisions, comme je le faisais. Nous voulions que Dieu soit ce que nous pensions qu'il devait être, et ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Aujourd'hui, nous allons donc chercher des réponses à une question simple que nous pouvons poser à Dieu pendant ce temps d'examen de conscience. Une seule question, et nous allons chercher à y répondre. Passons à Ézéchiel 34 et commençons par le premier verset. La parole du Seigneur me fut adressée, c'est Ézéchiel qui parle. En ces termes, fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël, prophétise et dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu aux bergers. À partir de ce point, et dans les versets suivants, Dieu met en accusation les personnes chargées de veiller sur son troupeau. Dieu révèle à Ézéchiel qu'ils cherchaient à satisfaire leurs propres besoins égoïstes. Ils n'avaient pas le troupeau de Dieu à l'esprit et il les accuse, comme vous le lisez dans les versets, de ne pas nourrir son peuple, de ne pas fortifier la maladie, de ne pas guérir les malades et de ne pas panser les blessures. Mais je veux me concentrer sur le verset 11. Dieu s'insère dans la conversation et s'oppose à ses bergers en déclarant ce qui suit. Verset 11. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, c'est moi qui vais chercher mes brebis, qui vais les chercher. Comme un berger cherche son troupeau le jour où il est au milieu de ses brebis dispersées, ainsi je chercherai mes brebis, puis il ajoute, et je les délivrerai de tous les lieux où elles ont été dispersées pendant le jour nuageux et sombre. Il est évident qu'il y a là une application prophétique, mes frères, mais Dieu a toujours cherché et continue de chercher ses brebis. Voici donc cette simple question que nous pouvons tous nous poser individuellement. Sommes-nous, suis-je la brebis que Dieu cherche? Parce que la formulation suggère ici, Lorsque vous posez cette question, que certaines brebis ne sont pas celles de Dieu. Dieu a mis l'accent sur les pronoms possessifs, mon. Il l'utilise au moins deux fois dans ce verset. Cela signifie que tous ceux qui prétendent être ses brebis ne sont pas comptés comme ses brebis. Commençons donc par quelqu'un qui connaissait la réponse à cette question. Et c'était bien avant qu'Ézéchiel n'écrive ces mots. Cet individu connaissait la réponse, suis-je la brebis que Dieu cherche? Passons au psaume 100. Psaume 100. Il s'agit évidemment du roi David. Je crois qu'il a été écrit environ 600 ans avant Ézéchiel. Psaume 100 et verset 1. Poussez des cris de joie vers le Seigneur, tous les pays. Servez le Seigneur avec joie, venez devant sa face avec des chants. Sachez que le Seigneur est Dieu. Il nous a créés, et nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. Nous sommes son peuple et les brebis de son pâturage. Frères et sœurs, c'est ainsi. Parmi les nombreuses et grandes contributions du roi David, l'une d'entre elles est de révéler que Dieu considère son peuple comme des brebis, un certain peuple, comme des brebis. J'ai trouvé cela intéressant parce que j'ai regardé, et toute référence aux moutons de la Genèse au Deutéronome, 57 fois, vous pouvez trouver ce mot. Josué, deux fois. Juge, une fois. Dans le premier et le deuxième Samuel, vous trouverez le mot mouton 24 fois. Premier et deuxième livre des rois, 8 fois. Première et deuxième chronique, 14 fois le mot mouton. Néhémie et Job, combinés, 8 fois de plus. Les livres que je n'ai pas mentionnés le sont parce que je ne crois pas que le mot mouton apparaisse dans les livres antérieurs au psaume. Savez-vous que la seule fois où le mouton est mentionné comme symbole d'un être humain dans les livres que je viens de mentionner, c'est sur les lèvres de David? Toutes les autres fois, il s'agissait du mouton lui-même, de l'animal proprement dit. Grâce au roi David, nous découvrons que Dieu considère les gens, un certain peuple, comme des brebis. Et pas seulement des brebis, ces brebis. Rappelez-vous Ézéchiel, mes brebis, pas les brebis de quelqu'un d'autre. Et c'est grâce au roi David que nous pouvons commencer à connaître et à comprendre ce que signifie être une brebis du grand berger. Partons de ce point, le psaume 79. Passons en revue quelques chapitres. 79. Parce que nous répondons à la question, suis-je la brebis que Dieu cherche? Psaume 79 et verset 13. Nous sommes ton peuple et les brebis de ton pâturage. Cela fait deux fois que nous lisons cela. Bien d'autres fois, nous voyons le mot brebis, mais juste à côté, il y a le mot pâturage. C'est intéressant. Nous y reviendrons bientôt. Ainsi, nous, ton peuple et les brebis de ton pâturage, nous te rendrons grâce à jamais et nous publierons tes louanges dans toutes les générations. Étant lui-même un berger, si l'on peut dire, ayant lui-même beaucoup interagi avec les moutons, il a réalisé, roi David, qu'il était une brebis et que Dieu était son grand berger. Des dizaines et des dizaines de fois, Dieu désigne certaines personnes comme ses brebis, mais la question demeure, suis-je la brebis que vous cherchez? Suis-je la brebis que Dieu cherche? Une question que nous n'avons peut-être jamais posée auparavant, en cette période précédant la Pâque. C'est une période de l'année où nous ne présumons de rien. Nous nous soumettons à un examen minutieux comme jamais auparavant. Galates chapitre 6, et je pourrais continuer et lire beaucoup d'autres versets qui font référence aux brebis de Dieu. Galates chapitre 6. Ce ne sont que deux exemples. Et le verset 3. Nous ne supposons rien, mes frères. Et voici une déclaration de l'apôtre Paul aux Galates, au verset 3. Si quelqu'un se croit quelque chose, alors qu'il n'est rien, Il se trompe lui-même. Je pourrais insérer ce qui suit et le lire ainsi. Car si un homme se prend pour une brebis, alors qu'il n'est pas une brebis, il se trompe lui-même. Nous pourrions crier à Dieu pendant cette période. Dieu, vous dites si clairement dans votre parole que vous cherchez vos brebis. Comment puis-je être sûr d'en faire partie? Parce que je veux vous donner exactement ce que vous voulez, ce que vous cherchez, ce que vous recherchez, ce que vous cherchez. Vous savez, la question que je n'ai pas posée à mes employeurs potentiels lors de ces entretiens. Si vous posez cette question en ce moment, frère, c'est déjà un bon indicateur que vous êtes probablement l'une de ces brebis. Si vous avez la certitude d'être l'une des brebis de Dieu, ce n'est pas mal. C'est une bonne chose. Le roi David lui-même était suffisamment confiant pour déclarer qu'il était une brebis de Dieu. Peut-être voulons-nous poser la question d'une manière légèrement différente. Peut-être voulez-vous poser la question suivante, suis-je le genre de brebis que vous voulez que je sois? Parce qu'il y a un problème, particulièrement en cette période de l'année, que certains frères ne réalisent probablement même pas. En cette période d'examen de conscience, ils sont plus habiles à examiner les autres qu'à s'examiner eux-mêmes. Je le sais, mes frères, et je l'ai entendu de la part de ministres sur le terrain qui déclarent ouvertement leurs doutes quant à savoir si quelqu'un d'autre dans leur congrégation est réellement un chrétien, ou je pourrais dire, une brebis. C'est un vrai casse-tête pour moi parce que les ministres ne peuvent pas distinguer les vraies brebis des fausses. Pensez au blé et à l'ivraie. 2 Corinthiens, chapitre 13. Quelques pages plus loin. Parce que si un membre conclut qu'une autre personne n'est pas une brebis ou une brebis de Dieu, cette personne, elle ou cela, a déjà conclu qu'elle est manifestement une brebis parce qu'il faut une brebis pour en connaître une, n'est-ce pas? Il faut être une brebis pour en connaître une. Mais je l'ai dit, c'est le moment de l'année où nous ne supposons rien à propos de nous-mêmes. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci aux Corinthiens. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne savez-vous pas vous-même que Jésus-Christ est en vous, si vous n'êtes pas des réprouvés? Nous reviendrons sur ce passage un peu plus tard. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous nous approchons de la Pâque, de la saison de la Pâque elle-même. À cette occasion, nous tenons particulièrement compte des instructions de l'apôtre concernant l'examen de conscience. Au verset 4, il évoque la crucifixion du Christ, l'événement le plus important des jours de la Pâque. Pensez au Christ après son baptême. La connaissance étonnante que nous avons apprise récemment et qui n'avait jamais vraiment fait tilt dans mon esprit auparavant. Après avoir vaincu Satan dans le désert. Nous en reparlerons un peu plus tard. Jean-Baptiste l'a présenté comme quoi? Pas le Messie. Il l'a présenté comme l'agneau de Dieu. Il aurait pu dire Messie, il l'attendait, mais il l'a présenté comme l'agneau de Dieu. Juste autour de la première année d'Abib. Quelques jours avant Abib 10, lorsque Dieu a ordonné à Israël de choisir les agneaux à sacrifier. Premier chapitre des Corinthiens, chapitre 11 et verset 31. Pour un moment ici, Marthe lance pointe au sujet de l'examen de nous-mêmes. Verset 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Alors, frères, jugeons-nous individuellement. En nous examinant et en nous jugeant, posons-nous à nouveau la question, suis-je la brebis que Dieu cherche? En préparant ce message, je suis tombé sur le verset de la Samaritaine au puits avec Jésus, et Christ lui a dit que le Père cherche des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Je me suis dit, Dieu, Que cherchez-vous en dehors de cela? J'ai donc commencé à chercher et il y a beaucoup de choses dans la Bible, mes frères, que je vous encourage à examiner. Faites votre propre étude biblique sur ce que Dieu recherche, car c'est le cœur du christianisme, donner à Dieu ce qu'il cherche. Je vais examiner deux façons de répondre à la question de savoir si nous sommes ou non les brebis que Dieu recherche. Jean, chapitre 10. Ce sera le point central de ce message. Il y a deux façons de mesurer. Il y a d'autres moyens de déterminer si nous sommes les brebis que Dieu cherche, mais nous allons seulement en examiner deux. Examinons donc ce que l'agneau de Dieu a à dire à ce sujet. Ce serait un bon point de départ, n'est-ce pas? Jean, chapitre 10. Vous y êtes probablement déjà. Et au verset 22. C'était la fête de la dédicace à Jérusalem, et c'était l'hiver. Verset 22. 23. Jésus entra dans le temple, plus précisément dans le porche de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand nous feras-tu douter? Si tu es Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous n'avez pas cru, les œuvres que je fais au nom de mon Père, c'est à moi qu'elles rendent témoignage. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas mes brebis, comme je vous l'ai dit. » Cette déclaration, « Vous n'êtes pas mes brebis », n'a probablement pas eu beaucoup d'importance pour eux. Elle n'a pas eu beaucoup de poids pour les Juifs qui l'entouraient ce jour-là, et encore moins pour les Romains qui l'ont finalement traîné sur la croix après l'avoir battu. Cette question aurait eu encore moins de sens pour eux. Vous n'êtes pas mes brebis. Mais qu'en est-il pour nous? La simple idée de nous trouver un jour devant lui et d'entendre la même chose ou quelque chose de semblable devrait nous faire reculer. Pensez au jour du Seigneur. Une multitude extraordinaire de gens parmi la multitude innombrable qui ont découvert qu'ils n'étaient pas du tout les brebis du Christ, mais plutôt les boucs de Satan. Certains en seront même choqués. C'est effrayant, mais la parole de Dieu nous donne de l'espoir. Les Écritures nous aident à savoir clairement à quoi ressemblent les brebis du Christ. Les Écritures nous indiquent les attributs essentiels d'une brebis afin que nous puissions l'identifier et travailler dans ce sens. Tout ce que nous avons à faire, c'est de continuer à lire ici. Verset 27, « Mes brebis, explique Christ, entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a données, important ici, est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Il y a donc deux mains. Il y a les mains du Christ et les mains du Père. Moi et mon Père sommes un. Le but est singulier. Frères et sœurs, les voilà. Les brebis de Dieu, les brebis du Christ entendent la voix du Christ et le suivent, lui obéissent où qu'il soit. C'est aussi simple que cela. Certains d'entre vous peuvent penser, « Oh, c'est une simplification excessive du christianisme. Cela simplifie à l'extrême ce qu'est le christianisme. » Non, mes frères, il est en fait très difficile pour un humain d'être l'une des brebis de Dieu. Mais avez-vous remarqué, encore une fois, que Christ a dit que le Père a donné ses brebis au Christ? Et qui tient encore la brebis? Le Père aussi. C'est pourquoi nous pouvons parler du Christ comme d'un berger, ou de Dieu le Père comme d'un berger. En fin de compte, nous sommes leurs brebis. Ils sont unis pour prendre soin de leurs brebis. Psaume 95. L'un de mes hymnes préférés. L'hymne 51. Venez, et adorons-le. C'est de là que vient cet hymne, le psaume 95 et le premier verset. Venez, chantons à Dieu. Nos voix joyeuses s'élèvent. C'est de là qu'il vient, mes frères. Venez, Chantons à l'Éternel, faisons retentir le rocher de notre salut. Approchons-nous de lui avec des actions de grâce, et faisons retentir des psaumes en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, un grand roi au-dessus de tous les dieux. Quel hymne! Quel chant! Verset 6. Venez, adorons et prosternons-nous. Vous avez probablement déjà les mots en tête, la musique. Agenouillons-nous devant le Seigneur, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de quoi? De son pâturage. Il y a encore ce mot, et les brebis de sa main. C'est comme si les brebis et le pâturage allaient de pair. Les paroles prononcées par Christ en Jean 10, « Nul ne peut les arracher de la main de mon Père », s'alignent sur le psaume 95. Christ a dit aux pharisiens la même chose que ce que le psalmiste a été inspiré d'écrire ici à la fin du verset 7. Lisez-le. Verset 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est à cela que Christ faisait référence. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, juifs pharisiens, nous saurons, le Père saura que vous êtes l'une de mes brebis. Si vous n'entendez pas ma voix, c'est le contraire. Ils n'ont pas entendu la voix du Christ. Que s'est-il passé? Leur cœur s'est endurci. Et il est dit, comme lors de la provocation, comme au jour de la tentation dans le désert. C'est intéressant. Le jour, au singulier, de la tentation. Verset 10, il y a 40 ans, poursuit le psalmiste, 40, un chiffre que nous lisons souvent dans la Bible, il y a 40 ans que je suis attristé par cette génération, et que je dis, c'est un peuple dont le cœur est dans l'erreur, et qui ne connaît pas mes voies, j'ai juré dans ma colère qu'il n'entrerait pas dans mon repos. Les brebis du Christ, les brebis du Père, leurs brebis ici. La première caractéristique vitale des brebis de Dieu est donc l'ouïe. En fait, les éleveurs de moutons savent que la vie des moutons dépend de l'ouïe, car ils n'ont pas une vision particulièrement brillante. C'est intéressant, ils ont des yeux sur le côté de la tête. Je pense qu'ils ont des pupilles rectangulaires. Ils ont donc une large gamme de vision, mais pas une vision particulièrement bonne. Ils comptent principalement sur leur ouïe pour les alerter des dangers, pour entendre la voix de leur berger. Ils ne peuvent peut-être pas le voir, mais ils peuvent certainement l'entendre. Dieu les a conçus ainsi, je crois, mes frères, pour que nous puissions établir des parallèles avec nous-mêmes. D'ailleurs, Dieu ne cherche pas à obtenir de nous quelque chose de différent de ce qu'il a obtenu du Christ. Christ savait que Dieu cherchait des brebis. Christ savait que Dieu cherchait des brebis, alors il s'est efforcé d'être le premier d'une multitude. Encore une fois, son titre était l'agneau de Dieu. Regardez ce qui est dit ici. Comme au jour de la tentation dans le désert. Pensez à ce que nous avons appris récemment sur Christ et sur le fait qu'il a eu faim pendant 40 jours, sans manger. Puis il a été tenté. En un laps de temps très court, pensez aux connaissances que nous avons acquises. Comme au jour de la tentation et dans le désert, est-il écrit. Et quelle a été la réponse du Christ à la première tentation du diable, mes frères? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Frères et sœurs, les agneaux de Dieu, les brebis, ont une grande capacité d'écoute. C'est pourquoi, en cette période d'examen de conscience, notre ouïe doit être à son meilleur. Quiconque se demande, suis-je la brebis que Dieu cherche? Ma réponse est la suivante, comment entendez-vous? Entendez-vous la voix du Christ? Parce que la vie éternelle, en repensant à Jean 10, le fait de ne jamais périr, en repensant à Jean 10, et ici, le repos éternel, en dépendent. Jean 18. Et le verset 33. Nous devons poser la question la plus importante. Une question que le monde ne pose pas et qu'il n'est pas capable de connaître. Quelle est la voie du Christ? Encore une fois, parce que la vie éternelle en dépend. Jean 18, 33. Répondons à la question. Laissons Christ répondre à la question pour nous. Quelle est sa voie? Verset 33. Alors Pilate, la scène où Christ et Pilate se rencontrent en privé, entra de nouveau dans la salle du jugement, appela Jésus, et dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela ?» En d'autres termes, cette question t'est-elle venue à l'esprit toi-même, ou bien d'autres te l'ont-ils dit à mon sujet? Ou bien ont-ils dit cela de moi? Pilate répondit, « Suis-je juif? Ta nation et le chef des prêtres t'ont livré à moi, qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs combattraient pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate dit donc, « Es-tu donc roi ?» Jésus répondit, « Vous dites que je suis roi. C'est pour cela que je suis né, c'est pour cela que je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité, et que quiconque est de la vérité, qu'est-ce qu'il a dit ?»« Entends ma voix. » Pilate demande alors, « Qu'est-ce que la vérité ?» Si vous écoutez attentivement ou si vous lisez attentivement, selon votre choix, je soutiens que Christ a déjà défini la vérité pour Pilate dans sa déclaration. Pilate ne l'a pas compris. Le monde l'a raté, mais pas nous. Christ a expliqué ce qu'il porte, et ce mot « porte » signifie témoigner, donner des preuves de ce que Christ affirme être la vérité. Et tous ceux qui sont dans la vérité entendent sa voix. Ainsi, quelqu'un qui m'écoute dans le monde pourrait dire que les brebis de Dieu sont celles qui ont une Bible. En fait, il existe des Bibles avec des lettres rouges qui vous renvoient aux paroles du Christ. Les gens aimeraient que ce soit aussi simple. C'est ce que j'ai fait avant de découvrir la vérité. Passons au chapitre 10 de l'Épître aux Romains. J'ai une Bible, mes frères. J'en ai plusieurs. J'ai une Bible numérique que je peux utiliser. Je suis sûr que vous avez, eh bien, vous avez une Bible. Peut-être avez-vous plusieurs exemplaires de la Bible. Peut-être utilisez-vous aussi une version numérique. Rien qu'en 22 ans, les sociétés bibliques ont distribué plus de 35 millions d'exemplaires de la Bible en un an, qu'ils soient numériques ou physiques. Donc si des milliards ont la Bible et n'entendent pas la voix du Christ, et par conséquent ne sont pas les brebis de Dieu parce que les brebis de Dieu entendent sa voix, alors qu'est-ce que la voix du Christ? Parce qu'il y a une différence entre ce qui est écrit ici et la voix du Christ. Il faut qu'il y ait une différence. Il suffit de regarder Satan. Satan a utilisé ce qui est écrit ici pour tenter Christ. Rappelez-vous qu'il a dit à Christ, car il est écrit, il a cité la Bible. Romains, chapitre 10, vous devriez être là, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils? Comment diable vont-ils l'invoquer, celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment l'entendraient-ils sans prédicateur? Et comment prêcheront-ils, s'ils ne sont pas envoyés? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, et qui portent la bonne nouvelle de bonnes choses. Frères et sœurs, laissons ce verset révéler la voix du Christ. Le mot grec « envoyé » révélera qui sont ces personnes dans ce verset. Car la croyance en Christ et en Dieu repose sur l'écoute et la compréhension de ces individus particuliers. Et cela nous conduira à identifier les brebis qui sont des dieux. Le mot « envoyé » est Strong's G649 apostello, d'où nous obtenons apostle le saint, ou le mot apôtre. Les brebis de Dieu se rassemblent là où son apôtre conduit et guide le troupeau de Dieu. Le monde passe à côté de cette portion monumentale de l'Écriture. Les organisations protestantes ou les églises modernes disent aux gens, tout ce que vous avez à faire, c'est de croire Jésus dans votre cœur et de le confesser, et vous serez sauvés. Pas si vite. Littéralement, pas si vite. Ce n'est pas aussi facile qu'on veut le faire croire. Christ et la parole de Dieu doivent être entendus d'un apôtre, car personne ne peut faire appel à Dieu par Jésus-Christ si cette personne n'a pas d'apôtre pour révéler ou expliquer qui est le vrai Dieu ou qui est le vrai Jésus-Christ. C'est un approfondissement de Romains 10, le verset que nous venons de lire. Continuons à nous appuyer sur ce point monumental au cours de cette période précédant la Pâque, et examinons chaque domaine de notre vie, chaque attitude, chaque pensée. Jean 21 et verset 1. Après cela, ce à quoi il se réfère se trouve dans le chapitre précédent, le chapitre 20. C'est le récit de la résurrection. Christ l'a rencontré, Marie-Madeleine lui est apparue, puis elle est apparue aux disciples, puis à Thomas. C'est ainsi qu'après ces événements, Jésus se montra de nouveau aux disciples, au bord de la mer de Tibériade. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme et Nathanaël, les fils de Zébédée également. Il s'agit de Jean et Jacques, et de deux autres disciples. Si je compte bien, cela fait sept. Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre, fils de Jonas, « M'aimes-tu plus que ceci ?» À ce moment-là, vous pouvez probablement entendre une épingle tomber. Et nous pouvons parfois passer outre à des déclarations cruciales de la Bible qui soutiennent une compréhension critique. Nous savons que ces hommes sont devenus des apôtres. Ils sont devenus apôtres aussi, mais Christ a choisi Pierre, qui est devenu le chef des apôtres. Et que dit Christ à Pierre après qu'il ait exprimé son amour pour Jésus? Au verset 15, Jésus lui dit, « Paix mes agneaux ». Ce que ce mot « paître » signifie, mes frères, c'est le pâturage. Les faire paître. Rappelez-vous que j'ai dit trois fois, je pense que nous l'avons lu, brebis et pâturage juste à côté l'un de l'autre. Il a dit à l'apôtre principal, « Faites paître mes agneaux ». La deuxième fois, au verset 16, il a demandé, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Paie mes brebis. » Ce mot est différent de la première fois que nous avons lu Fide. Il signifie « paître mes brebis ». Il a dit à l'apôtre Pierre, le chef des apôtres, « berger ». Jésus a demandé pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre a été grisé par ce qu'il lui a demandé pour la troisième fois, « m'aimes-tu ? » Et il lui dit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Fais paître mes brebis. » Il est revenu à la première façon de le dire. La plus grande expression d'un apôtre est de faire paître et de garder les brebis de Dieu. Dieu a nourri son agneau, Jésus-Christ. Tout ce que Jésus a entendu, il l'a transmis aux apôtres. C'est pourquoi il les a appelés amis et non plus serviteurs. Tout ce que j'ai entendu dire par le Père, je vous l'ai donné. Maintenant, je vous appelle amis. Les apôtres ont donc été nourris par le berger, Christ. Et que font les apôtres? Ils nous nourrissent. Ce que fait l'apôtre aujourd'hui nous nourrit. Nous sommes nourris par l'apôtre. Nous sommes nourris. Nous sommes bergués. Je me souviens de la première fois que nous sommes venus à l'office ici au siège. C'est une longue histoire. Ma femme était un peu réticente à l'idée de venir. Nous sommes venus tous les deux. Nous avons laissé nos filles à la maison. Nous voulions voir comment c'était. J'ai accepté. Je voulais amener ma fille. Elle ne l'a pas fait. Et n'importe quel ministre de l'époque, et je pense que nous avions plus de ministres ici au siège à l'époque que nous l'en avons actuellement, n'importe quel ministre de l'époque aurait pu recevoir le message ce jour-là, mais c'est M. Pas qui l'a reçu. Nous ne l'avions jamais rencontré. Nous n'avions entendu sa voix qu'à travers la littérature. Et je me souviens de ma femme, peut-être pas exactement les mots qu'elle a prononcés, mais juste après que nous ayons terminé, elle a dit « C'était la première fois que j'étais nourrie. » C'était la première fois qu'elle se sentait nourrie. Et le reste, comme on dit, c'est de l'histoire. Si nous demandons sincèrement à Dieu de nous montrer si nous sommes les brebis qu'il recherche, nous devons être conscients du fait que les brebis de Dieu sont identifiées non seulement par la vérité que nous entendons, mais aussi par la personne de qui nous l'entendons. Un dernier verset à ce sujet. Revenons à la deuxième épître aux Corinthiens. Rappelez-vous que j'ai dit que nous y reviendrions. 2 Corinthiens 13. Vous vous souvenez que nous avons lu le verset 5 tout à l'heure, nous allons le lire à nouveau. Mais la préparation du verset 5 commence dès le verset 1. Voici ce que l'apôtre Paul a écrit. C'est la troisième fois que je viens à vous. Toute parole sera établie par la bouche de deux ou trois témoins. Je vous l'ai déjà dit et je vous l'ai annoncé, comme si j'étais présent, la deuxième fois. Et maintenant que je suis absent, j'écris à ceux qui ont péché et à tous les autres. À tout le monde. Je veux que tout le monde entende ce que je vais dire. On peut donc imaginer que quelqu'un lit cette lettre à tout le monde, à ceux qui pêchent comme à tous les autres. Je veux que chacun apprenne le point suivant. Voici ce qu'il dit. Si je reviens, je n'épargnerai pas. Je ne vais pas me retenir. Si je reviens, je ne me retiendrai pas. Puisque vous cherchez, verset 3, une preuve que Christ parle en moi. Puis au verset 5, parce que les Corinthiens cherchaient une preuve que Christ parlait dans et à travers un apôtre, et dans ce cas, Paul. Il dit alors, examinez-vous. Si vous posez cette question, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même, ne savez-vous pas comment Jésus-Christ est en vous, si vous n'êtes pas des réprouvés? Permettez-moi de paraphraser l'apôtre Paul. Si vous doutez que Christ parle dans l'apôtre, disait-il aux Corinthiens, alors vous devriez vous demander si Christ est en vous parce que la vérité que vous avez entendue, la vérité qui vous a amené à la repentance, la vérité qui vous a conduit au baptême, c'était la voix du Christ qui parlait. Dieu, Christ parle à travers l'apôtre, la vérité. Le sabbat n'a lieu que 52 fois par an, peut-être 53 si l'année est plus longue. Nous avons des services 24 autres fois, je pense, si je compte bien, pendant les vacances de printemps et d'automne. Nous organisons des études bibliques tout au long de l'année. Nous n'entendons donc pas tous les jours l'apôtre de Dieu parler ou le ministère qui soutient l'apôtre et la vérité qu'il apporte tous les jours. Mais les brebis que Dieu recherche devraient être dans la vérité 365 jours par an. Imaginez une brebis qui ne mangerait pas tous les jours. Donc, deuxième point, non seulement les brebis de Dieu se rassemblent là où son apôtre les fait paître, mais les brebis de Dieu se nourrissent dans son pâturage, dans le pâturage de Dieu. Psaume 23. Le premier verset est un psaume de David. Le Seigneur est mon berger. Un psaume qui nous est très familier. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Le roi David ne sortait pas tous les jours pour se coucher dans un champ herbeux. Nous le savons. Logique. Il me conduit près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Réfléchissez, mes frères. Où se trouve la plus grande bibliothèque de livres, de brochures et d'articles bibliques de la planète? La vaste bibliothèque de l'Église est l'endroit où se trouvent les verts pâturages de Dieu. Les brebis de Dieu paissent là où la nourriture est la plus abondante. Encore une fois, je me souviens des commentaires de ma femme après le service du sabbat juste avant la Pâque. Elle a dit que c'était la première fois qu'elle se sentait nourrie. Je regarde en arrière et je sais que seule une brebis de Dieu peut éprouver ce sentiment de satisfaction, de paix, de restauration, d'espoir, de chemin vers la justice. Mais il est important que je raconte mon histoire. Je n'ai pas accepté une invitation à venir au service du sabbat à cause de cette Bible, la Bible qui est assise sur vos genoux. J'avais une Bible bien avant d'être liée à RCG. Je la lisais assez souvent. Je suis venu parce que j'ai goûté à la bonté des verts pâturages de Dieu en ligne, et grâce aux livres et brochures que l'imprimerie m'a envoyés. Mon histoire est un peu différente, mais ma femme et moi sommes un exemple de ce dont je parle. Elle a entendu la voix. Elle ne lisait pas autant que moi. Elle est venue parce que j'ai été nourrie par le pâturage de Dieu. Elle est entrée dans la vérité et a su qu'elle était appelée parce qu'elle a entendu la voix de l'apôtre. Mais en fin de compte, c'est la même chose. Cette vaste bibliothèque, la plus grande du monde, n'est pas apparue par magie. Elle est née de la vérité que l'apôtre de Dieu a transmise à la dernière génération, à la dernière ère de l'Église. L'enseignement de l'apôtre de Dieu est au cœur de chaque livre d'un article. Qu'est-ce que l'Apocalypse 10:7, nous l'avons entendu tant de fois, dit dans les jours de quoi? Au jour de la voix, au jour de la voix du septième messager. La voix, l'audition. On aurait pu dire au jour du septième messager, mais on dit au jour de la voix du septième messager. Pourquoi? Parce que les brebis du Christ entendent la voix du Christ par l'intermédiaire de l'apôtre. Il est évident, comme je l'ai dit, qu'ils sont soutenus par des ministres établis dans le corps du Christ pour instruire les brebis de Dieu avec la vérité que M. Pâques nous a donnée à partir des Écritures. Cela peut être douloureusement répétitif pour certains d'entre vous, mais cela vaut la peine de le répéter alors que nous examinons chaque domaine de notre vie. Comme je l'ai dit plus tôt, nos attitudes, nos pensées, tout. Et une dernière série de versets sur l'ouïe plutôt parce que les brebis de Dieu, les brebis que Dieu cherche, ont une ouïe excellente. Ce sont des versets de mise en garde. Rappelez-vous, les brebis ont une ouïe fine. En fait, elles ont la capacité de tourner leurs oreilles dans des directions opposées parce qu'elles comptent sur leur ouïe pour les alerter des dangers. Suis-je la brebis que Dieu cherche? Jean 10. Jean, chapitre 10, nous entrons directement dans le vif du sujet. Verset 2, celui qui entre par la porte est le berger des brebis. C'est à lui que le portier ouvre, et les brebis entendent sa voix. Et c'est reparti. Il appelle ses brebis par leur nom et les laisse dehors. Verset 4. Les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Et l'étranger, elles ne le suivent pas, mais elles s'enfuient loin de lui. Vous avez compris, mes frères? Les moutons qui ont une excellente ouïe reconnaissent la voix de leur berger. Nous l'avons déjà défini. Mais elles ont aussi la capacité de reconnaître les voix étrangères et de ne pas les suivre. Frères et sœurs, suis-je la brebis que Dieu cherche? Quand les brebis de Dieu reconnaissent immédiatement et fuient immédiatement la voix des étrangers. Quand j'étais jeune, mon père nous emmenait chasser le cerf presque chaque année, et nous devions rester silencieux pendant des heures. Nos compétences en matière de chasse reposaient essentiellement sur notre ouïe, et non sur notre vue. Nous devions entendre les cerfs avant qu'ils ne nous blessent. C'était le jeu. des heures durant. Que je marche dans les bois ou que je sorte des bois, que je sois assis ou debout, je devais entendre des bruits étranges que vous n'auriez pas entendus parce qu'il pouvait s'agir d'un cerf, d'un ours ou de n'importe quoi d'autre. Mais vous savez ce que les cerfs écoutaient? Des sons étranges. Comme les moutons, les cerfs ont une ouïe fine. Les cerfs les plus âgés et les plus matures se réveillent immédiatement lorsqu'ils entendent des sons inconnus. En fait, les cerfs les plus âgés, leur mère, dressent la queue pour alerter leur foin en cas de danger, car les plus jeunes n'ont pas développé l'ouïe nécessaire pour identifier les bruits étranges. Ils sont heureux, ils vont de l'avant, ils voient leur queue se dresser, ils savent que leur mère a entendu quelque chose, en particulier un prédateur. En cas de doute, elles s'élancent, elles courent. Ils s'enfuient immédiatement pour leur propre sécurité et celle de leur progéniture ou du troupeau, de tout le troupeau. Durant toutes mes années de chasse, je n'ai jamais vu un cerf se diriger volontairement vers un bruit étrange, à moins qu'il ne soit désorienté. J'ai des histoires de chasse, vous pouvez me les demander un jour. Il ne tiendrait pas longtemps dans le désert s'il ne faisait pas cela. Il en va de même pour les brebis de Dieu, elles ne feront pas long feu. Il y a ceux qui prouvent qu'ils ne sont pas des brebis de Dieu. Au lieu de fuir les voies étranges, ils ont couru vers elles. Et en fait, ils ont développé leur propre voix étrange. Ils se sont habitués à s'écouter eux-mêmes et non à écouter la voix du Christ. Notre ouïe est-elle comme la brebis que Dieu recherche et qui nous permet de reconnaître, d'éviter et de traiter correctement les voix étranges? Colossiens, chapitre 2 et verset 8, prenez garde. Colossiens, chapitre 2, verset 8. Vous avez compris? Prenez garde que personne ne vous égare par la philosophie et par de vaines séductions, selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde, et non selon Christ. Une fois de plus, l'agneau de Dieu est pointé du doigt. Le mouton des moutons, si vous voulez. Au fil des ans, nous avons tous entendu une philosophie séduisante, même dans l'Église, de la part de soi-disant experts, donnant des conseils, proposant un raisonnement charnel. Cela semblait étrange à l'époque, mais j'étais nouveau. Mon oui se développait encore, mais j'avais assez de bon sens pour regarder les plus matures du troupeau, si vous voulez, et voir leur queue se dresser. C'était extraordinairement utile quand je développais mon oui, mais avec le temps, les moutons de Dieu ont développé cette oui. Nous devenons capables de détecter les philosophies, les tromperies, les traditions, les idées mondaines qui s'opposent au mode de vie de Dieu. Hébreux 13 et verset 7, souvenez-vous de ceux qui dominent sur vous et qui ont parlé. Nous y revoilà, l'écoute est audible. Ceux qui vous ont annoncé la parole de Dieu, dont non seulement la foi, dirais-je, suit, mais aussi la voix, compte tenu de la fin de leur conversation ou de leur conduite. Verset 8, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. La voix du Christ n'a pas changé. Elle vient par l'intermédiaire d'un apôtre et le pâturage est la plus grande bibliothèque biblique de la planète, créée à partir de la voix du Christ par l'intermédiaire de cet apôtre et des ministres qui le servent. Que dit-on après Jésus-Christ? La même voix hier, la même voix aujourd'hui, la même voix éternellement, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étranges. La voix du Christ n'a pas changé au cours des millénaires, mes frères. Si quelque chose vous semble différent, fuyez-le. Si cela semble étrange, c'est probablement étrange. Tenez-vous donc à l'écart des sites qui détestent les autres. Restez à l'écart des sites qui enseignent des doctrines artificielles et qui prêchent un faux Dieu et un faux Jésus. Vous pouvez les entendre cracher leurs opinions personnelles sur qui nous sommes ou qui est Dieu, ou qui devrait être Dieu, ou qui devrait être Jésus-Christ selon eux. Deuxième Jean, chapitre 1. Deuxième Jean, chapitre 1 et verset 7, il y a beaucoup de séducteurs dans le monde, pas seulement à l'époque, mais aujourd'hui. Il continue en disant. Et au verset 8, regardez en vous-même. C'est une façon intéressante de lutter contre les voix étranges. Examinez-vous vous-même, dit-il. En d'autres termes, examinez votre œil. Veillez à ce que votre œil soit la meilleure possible. Afin que nous ne perdions pas les choses pour lesquelles nous avons travaillé, parce que beaucoup de choses dépendent de cela, afin que nous recevions une pleine récompense. Nous en reparlerons dans un instant. Quiconque transgresse et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine du Christ a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, retenez ce que nous avons reçu, notre agréable vérité présente qui vient par l'intermédiaire de l'apôtre, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui souhaitez pas bonne chance. Car celui qui lui souhaite bonne chance participe à ses mauvaises actions. C'est pourquoi nous n'invitons pas chez nous les témoins de Jéhovah, les Mormons ou quiconque a l'intention de nous donner une perspective différente de notre religion. Je ne parle pas de la famille. Ma famille biologique, la famille de ma femme, ne croit pas la même chose que nous, mais ils ne viennent pas chez moi dans le but de nous faire changer d'avis. Si c'était le cas, ce serait un adieu agréable. Je les nourrirai encore, mais celui qui vient essayer de dire des choses étranges qui vont à l'encontre de la doctrine du Christ, nous ne lui disons même pas au revoir. C'est pourquoi, frères, nous ne visitons pas les sites web. Oh, vous pensez que c'est seulement une personne qui frappe à votre porte. Vous pouvez inviter quelqu'un dans votre maison en allant sur un site web où vous ne devriez pas être parce que nous invitons un autre évangile dans notre maison. Nous n'approuvons pas non plus d'autres sites chrétiens. C'est la même chose. Nous leur souhaitons bonne chance si nous faisons cela. Ils combattent ce que nous avons entendu du pâturage de Dieu. Ils nous amèneront à transgresser et à ne pas nous conformer à la doctrine du Christ. Alors, frères, regardons à nous-mêmes. Faisons un examen de conscience et demandons-nous, suis-je la brebis que Dieu cherche? Je demande, entendons-nous la voix du Christ? Reconnaissons-nous et croyons-nous que la voix du Christ se fait entendre à travers le ministère de Dieu, en commençant par son apôtre? Passons-nous régulièrement dans le pâturage de Dieu, qui est l'endroit où se trouve son Église, où pousse la nourriture la plus abondante et la plus riche en nutriments qui soit? Mon oui me permet-elle d'éviter les bruits étranges, les sons et les voix étranges? Est-ce que je les bloque? Frères et sœurs, lorsque nous nous examinons, nous devons vérifier nos oreilles pour nous assurer que notre oui fonctionne correctement. Si c'est le cas, si nous faisons cela, vous savez quoi? J'ai des nouvelles encourageantes, nous ne sommes qu'à une fraction du chemin. Une fraction. J'ai passé tout ce temps, nous ne sommes qu'à une fraction du chemin si j'ai appris à écouter la voix du Christ. Oui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas facile d'être une brebis de Dieu. Revenons à Jean 10, revenons à Jean 10. Excusez-moi. Nous allons passer à Genèse 3 dans une minute. Genèse 3. Genèse 3. Citation célèbre de Thomas Edison. Le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Un mouton s'excite lorsqu'il entend la voix de son berger s'approcher. Nous nous sommes enthousiasmés lorsque nous avons entendu la voix du Christ, comme nous venons de la définir, ma femme et moi. Mais ce n'est qu'un pour cent. Les 99% restent à venir. Il faut plus que de l'excitation ou de l'inspiration. Là encore, ce n'est qu'un pour cent de l'équation. Sans cela, sans entendre la voix du Christ, nous ne pouvons pas accomplir les 99 autres pourcents, la transpiration. Rappelez-vous que Christ a dit, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Obéissez-moi. » Permettez-moi de vous poser une autre question. Pourquoi Dieu a-t-il enlevé l'arbre de vie à Adam, puis a maudit le sol à cause de lui, et l'a obligé à en manger chaque jour dans la tristesse, chaque jour de votre vie? Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? C'est une sacrée punition. Genèse, chapitre 3. Nous savons ce qui s'est passé dans les versets précédents, à partir du verset 1, mais nous allons reprendre au verset 8. Adam et Ève entendirent, qu'entendirent-ils? La voix du Seigneur. Voilà. Marchant dans le jardin à la fraîcheur du jour, Adam et sa femme se cachèrent de la présence du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Verset 10. Et il dit, « J'ai entendu ta voix. » Voilà deux fois qu'il est fait référence à la voix de Dieu. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Dieu essayait de faire paître des brebis qu'il voulait voir devenir permanentes. Il voulait qu'elles s'habituent à sa voix, qu'elles ne se contentent pas de l'entendre et de la reconnaître, car Adam a manifestement développé cette capacité. J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que j'étais nu, et je me suis caché. Dieu commence à poser une série de questions. Les choses se compliquent car de nombreuses accusations circulent. Après qu'Adam et Ève se sont exprimés, Dieu s'adresse à Adam. Verset 17. Voici pourquoi Dieu a enlevé l'arbre de vie à Adam. Voici pourquoi il a maudit le sol parce qu'il l'a envoyé sur. Voici pourquoi il l'a fait manger du sol dans la douleur tous les jours de sa vie. Il est dit, « Parce que tu as écouté, obéi à la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger. Le sol est maudit à cause de toi, et tu en mangeras tous les jours de ta vie. » Dieu l'a fait savoir à l'humanité depuis 6000 ans, depuis la Bible lorsqu'elle a été écrite, « Mari et femme, attention !» que la punition d'Adam a été le résultat de la désobéissance à la voix de Dieu et du choix d'obéir à celle de quelqu'un d'autre. Oui, même à celle de sa femme. Frères et sœurs, les brebis de Dieu obéissent à la voix de Dieu. Un point, c'est tout. Parfois, les voix les plus difficiles à désobéir viennent de ceux qui sont les plus proches de nous. Pendant ce temps d'examen de conscience, nous pouvons nous demander si je suis la brebis que Dieu cherche, qui écoute et obéit à sa voix. Car mes frères, voici ce qui dépend de l'obéissance des brebis de Dieu à sa voix, et non des autres. Il y a beaucoup de récompenses. Voyons combien nous pouvons en couvrir dans le temps qu'il nous reste. Luc 6, Luc chapitre 6. Frères et sœurs, voici la récompense des 99%. Mon message ne porte pas sur l'obéissance. Si vous entendez ce que Christ dit, comme je l'ai expliqué, sa voix, et que vous y obéissez, faites-le, comme le dit la publicité Nike. Faites-le. Lorsque vous entendez la voix de votre berger dans le pâturage que Dieu nous a donné, sous la conduite du berger, de l'apôtre et du ministère, faites-le. Parce que tout dépend de cela. Et je dis bien tout. Je vais en citer quelques-uns. Luc 6, chapitre 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque, y compris les brebis, toute brebis qui vient à moi, ou sa voix est, évidemment, le pâturage de Dieu, entend mes paroles, entend sa voix, broute et mange, et les met en pratique. La formule est très simple, mes frères, pour être des brebis de Dieu en bonne santé et pleine de vie. Obéir à sa voix, suivre les instructions du berger. Et je vais vous montrer à quoi il ressemble. Je veux parler d'une vie de prospérité. Une vie solide. Un homme ou une femme que les gens peuvent regarder et dire, « Oh là là, il ou elle est différente, quelles que soient les circonstances. » Voici ce qui se passe. Il est dit, « Il est comme un homme dont la maison a des fondations profondes sur un rocher qui ne peut être ébranlé face aux inondations et aux courants, surmontant les épreuves. » Frères et sœurs, nous sommes à cette époque de l'année. Car elle a été fondée sur la vérité dont Christ témoigne. Souvenez-vous de l'expression « témoigne de ». Nos vies sont fondées sur la vérité que nous avons entendue et sur l'obéissance à cette vérité. Ce dont Christ a témoigné, ce dont il a donné la preuve, ce qu'il a affirmé aux brebis de Dieu. N'oubliez pas qu'il parle aux brebis de Dieu par l'intermédiaire de son gouvernement. Nos vies reposent sur des fondations solides. Les épreuves, les tribulations et les tests peuvent venir à notre rencontre, mais rien ne peut nous renverser si nous écoutons et obéissons simplement à ce que Dieu dit. Jérémie 7, 23. Mais je leur ai donné cet ordre, obéissez à ma voix. Quelle est la récompense? Je serai votre Dieu, votre berger. Et vous serez mon peuple, mes brebis. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux. Frères et sœurs, la bénédiction, c'est maintenant, pas seulement dans l'avenir, c'est maintenant sur nous, en écoutant, en entendant et en obéissant à la voix de Dieu en tant que ses brebis. Pensez à toutes les fois où vous avez obéi à quelque chose que vous avez entendu, soit dans votre étude biblique privée, ou peut-être quelque chose qu'un ministre a dit pendant un message, Monsieur Pack, quelque chose que vous avez lu dans les documents parce que vous luttiez avec un domaine, et vous ne pouviez pas le trouver dans l'écriture, alors vous l'avez googlé, ou pas googlé, mais vous l'avez cherché dans RCG, et vous l'avez trouvé, et vous l'avez obéi. Pensez aux bénédictions. Pensez-y. Les bénédictions viennent en conséquence, pas seulement une vie solide, fondée et équilibrée que les gens peuvent admirer, mais les bénédictions viennent aussi sur votre chemin. Exode 19, 5. Exode 19, 5. J'ai donné un message il y a quelque temps, je ne sais plus quand, sur le « si » et le « alors », les déclarations conditionnelles de la Bible. Elle en est pleine. Si vous faites ceci, alors cela arrivera. Voici une autre déclaration aussi. Exode 19, 5. Maintenant, si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez pour moi un trésor particulier par-dessus tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et il ajoute au verset 6, vous serez un royaume de prêtres et une nation sainte. Il suffit d'écouter et d'obéir. Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21. Un verset très familier. Tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Nous voulons tous atteindre le royaume de Dieu et y entrer, ne pas en être exclus. Mais celui qui fait la volonté de mon Père, celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Frère, c'est pourquoi nous prions chaque jour, que ta volonté soit faite. Je ne parle pas de quelque chose que vous voulez qu'il fasse, ou d'une promesse qu'il vous a faite, bien sûr, cela peut en faire partie, ou de quelque chose que vous voulez que d'autres personnes fassent. Cette prière est une prière personnelle sur votre volonté de faire ce que vous entendez dire par Dieu, sa volonté. Hébreux 5, 9, Royaume des cieux et entrée. Hébreux 5, 9. Parlant du Christ. Parvenu à la perfection, il est devenu l'auteur d'un salut éternel. pas seulement sauvés occasionnellement au cours de notre vie dans des circonstances que nous avons rencontrées, mais le salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent, toutes les brebis qui lui obéissent, le salut éternel. 1 Jean, chapitre 2, pour notre dernier verset. 1 Jean, chapitre 2 et verset 15. Un verset très familier lui aussi. N'aimez pas le monde ni les choses du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. Verset 17. Le monde passe et ses convoitises aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Êtes-vous la brebis que Dieu cherche? Suis-je la brebis que Dieu cherche? Quelle voix entendez-vous? À quelle voix obéissez-vous? Parce que les brebis de Dieu, les frères, ces vraies brebis, résistent aux épreuves, vainquent au milieu de l'adversité, reçoivent des bénédictions, tant physiques que spirituelles, deviendront des prêtres et des citoyens du Saint-Royaume de Dieu, et nous serons sauvés et jouirons de la vie éternelle. Si nous écoutons et obéissons à la voix du Christ, à la voix de Dieu, nous jouirons de la vie éternelle, non plus en tant que brebis, mais en tant qu'êtres divins éternels.